Bonjour à tous, merci pour ce temps de louange, merci à l'équipe louange. Je dois dire que j'ai particulièrement été édifié par vos prières ce matin. Et pour beaucoup qui collent avec ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre texte. Mais avant de nous plonger dans la Bible, je vais vous raconter l'histoire d'un homme et j'aimerais vous lancer le défi de deviner de qui il s'agit. Alors je pense que c'est comme question pour un champion. Plus on avance et plus c'est facile de trouver. Nous sommes en 1505. Un jeune homme de 22 ans devient moine et il est convaincu que le meilleur moyen d'être sauvé du châtiment éternel est de renoncer au monde. Par ses propres forces, il essaye de mériter son salut et il multiplie ainsi les bonnes œuvres et s'efforce à accomplir toutes les sales besognes les plus humbles, nettoyer les cellules, laver les bâtiments, etc. Très souvent, cet homme jeune est pris et sa cellule n'est pas chauffée en hiver, il dort sur un matelas qui est dur, il se mène la vie dure pour être le plus proche possible de Dieu. Très souvent, ses coreligionnaires l'entendent dire dans sa cellule, tout seul, quand il prie, Ô mon péché, ô mon péché. Il a une conscience maladive de son péché, à tel point qu'il devient dépressif et sombre dans le désespoir. Décrivant cette période dans laquelle il vit, voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'il écrit. Toujours pas. C'est bien on pour allumer. Ah, j'étais sur une mauvaise flèche, pardon. J'ai grandement aspiré à comprendre l'épître de Paul aux Romains et rien n'entravait ma compréhension excepté la justice de Dieu. Parce que je croyais que l'expression signifiait que Dieu est juste et qu'il punit justement l'injuste. Même si j'étais un moine irréprochable, je me tenais devant Dieu un pécheur troublé dans ma conscience, sans assurance que mon mérite pouvait l'apaiser. Par conséquent, je n'aimais pas un Dieu juste et en colère, mais plutôt je le détestais et je murmurais contre lui. Pourtant, je m'accrochais à mon cher Paul et je désirais comprendre ses paroles. À la fin de l'année 1517, il ouvre une fois de plus la Bible et se plonge dans l'épître aux Romains et s'arrête sur ce verset de Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi seul. Il s'arrête et il médite cette phrase. Et soudain, une joie immense envahit son cœur et instantanément le poids de son péché disparaît. Dieu se révèle à lui de façon extraordinaire et il écrira « Les portes du ciel se sont ouvertes ». Il découvre la grâce imméritée de Dieu, le salut par la foi. Il comprend ce qu'est la justice de Dieu et voici comment ce qu'il écrit, voici comment il décrit cette nouvelle étape de sa vie. J'ai vu le lien entre la justice de Dieu et l'énoncé, le juste vivra par la foi. Ensuite, j'ai saisi que la justice de Dieu est la justice par laquelle, à travers la grâce et la pure miséricorde, Dieu nous justifie par la foi. Dès lors, je me suis senti renaître, comme si j'avais passé les portes du paradis. Toutes les Écritures revêtaient un nouveau sens. Les passages où la justice de Dieu me remplissait auparavant de haine devenaient maintenant pour moi inexprimablement doux et faisaient monter en moi un plus grand amour. Pour moi, ce passage de Paul est devenu une porte vers le ciel. Avez-vous compris, deviné de qui il s'agissait? Exactement. C'est très résumé. Le cheminement spirituel de Martin Luther. Et le tournant de sa vie à Martin Luther se trouve dans la compréhension de la justice de Dieu. La justice de Dieu qui s'obtient par la foi seule. À partir du moment où il a compris ça, sa vie a été bouleversée. Et les conséquences, on les connaît bien aujourd'hui. Il a été un des premiers réformateurs, en tout cas de la réforme protestante. Il a été impliqué là-dedans pour réformer, changer l'Église. Et c'est là-dedans qu'on retrouve nos sources historiques et théologiques aujourd'hui dans notre Église, dans nos Églises évangéliques. Et le texte qu'on va voir ce matin nous parle de la justification par la foi. Et l'apôtre Paul, quand il en parle dans l'épître aux Romains, il veut s'émerveiller de la beauté de la justification par la foi. Et j'aimerais ce matin ensemble qu'on s'émerveille de nouveau face à ce que c'est que la justification par la foi. Qu'on puisse, comme Luther, découvrir toute la richesse, ou redécouvrir peut-être toute la richesse de ce que veut dire être justifié par la foi. Vous savez, on peut facilement oublier la beauté des choses, n'est-ce pas ? On est ici dans une des régions les plus belles de France, je trouve. Et encore hier après-midi, alors qu'on se baignait à la plage, je nageais avec Noli, et je disais, tu te rends compte quand même, on est au mois de septembre, et jusqu'à présent, là où on était, il pleuvait, il faisait froid. On était obligé de commencer, on se posait la question, est-ce qu'il faut allumer le chauffage maintenant ou est-ce qu'on attend encore un peu ? Et là, on est en train de se baigner, quoi. Il fait beau, il y a les montagnes. Et puis elle était en train d'essayer de nager. Ouais, c'est super, moi. C'est extraordinaire. Mais on peut vite oublier les belles choses qui nous entourent. Et on peut vite être oublieux des vérités fondamentales de la Bible et de ses implications dans notre vie. J'ai donné comme titre à cette prédication « Le plus merveilleux de tous les cadeaux ». Et je vous invite de prendre avec moi Romains chapitre 5, les versets 1 à 11. L'Épître aux Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste ? Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Si je devais résumer ce texte ce matin, je dirais que les fruits de la justification par la foi sont des merveilleux cadeaux que Dieu nous offre pour que nous nous en nourrissions toute notre vie. Les fruits de la justification par la foi qu'on va découvrir là dans notre texte sont des cadeaux extraordinaires. Et ce n'est pas des cadeaux qui nous sont donnés juste une fois, comme on peut offrir un cadeau de Noël à quelqu'un une fois, mais c'est des cadeaux qui sont là, qui sont présents dans notre vie, à chaque instant, à chaque moment de notre vie, qui se renouvellent chaque jour. Des cadeaux extraordinaires. Et on a tellement besoin de nous en nourrir et de les prendre et de s'émerveiller, de les contempler chaque jour. Alors, on va regarder les 6 cadeaux extraordinaires de la justification par la foi. Le premier, c'est la paix avec Dieu. Et on va relire ensemble les versets 1 et 2. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Étant donc justifié par la foi. Le donc renvoie à tout ce que Paul a dit jusqu'à présent dans l'Épître aux Romains. Il a commencé par montrer qu'on était tous pécheurs marqués par le péché naturellement, que l'on soit juif, que l'on soit non-juif, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre culture, nous sommes tous rebelles contre Dieu, nous sommes tous marqué par la colère de Dieu, soumis à la colère de Dieu. Et on est inexcusable. Inexcusable. Il n'y a pas, il n'y a personne sur la terre qui peut dire ben, « Je suis pécheur, mais je ne le savais pas. » Devant Dieu, personne n'est excusable. Ça, c'est ce qu'il dit dans les trois versets, dans les trois premiers chapitres. Mais après, il dit « Oui, on est inexcusable, mais Dieu veut nous sauver de ça. Dieu veut nous sauver de notre péché. » Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et cette rédemption, ce rachat de nos péchés, ce pardon de nos péchés, s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et au chapitre 4, Paul, il explique que la foi, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui sort de son chapeau, là, au premier siècle de notre ère. La foi, il dit, regardez la vie d'Abraham, regardez la vie de David, eux aussi ont été justifiés par la foi. Et maintenant qu'on est justifié par la foi, qu'on est déclaré juste alors qu'on était pécheur, rebelle, soumis à la colère de Dieu, nous sommes justifiés par la foi. Mais la foi, c'est quoi? Certains vont définir la foi en disant c'est comme un grand saut dans le vide, on saute et puis on verra bien. Et j'ai confiance que Dieu va être là et va me retenir. Mais ce n'est pas ça la foi biblique. La foi dans la Bible, c'est la ferme espérance, l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou pour le dire encore autrement, c'est de croire dans les promesses de Dieu, d'en être absolument convaincu que ce que Dieu dit, c'est vrai, et d'agir en conséquence. Peut-être ceux qui ont fait le survol de la Bible, vous vous souvenez de cette définition qu'on avait donnée de la foi. Croire dans les promesses de Dieu, croire que ce que Dieu dit, c'est vrai, et agir en conséquence. Abraham a eu confiance dans les promesses de Dieu. Il a cru en ses promesses et il a agi en conséquence en partant vers ce nouveau pays que Dieu allait lui montrer. Et c'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste. Et de la même manière, nous pouvons nous-mêmes aussi être déclarés justes si nous avons la foi dans les promesses de Dieu. Et la foi, quelle est la promesse que Dieu nous donne aujourd'hui à nous en tant que chrétiens, croyants ou peut-être sceptiques ou athées, on a tous la même promesse qui est « Si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour payer le prix de ton péché, alors tu seras déclaré juste. » Si tu crois dans l'œuvre de Christ, en sa vie parfaite, que tu es incapable de vivre parce que tu es pécheur comme tous les autres, parce que je suis pécheur comme tous les autres, si tu es conscient de cette condamnation que tu mérites à cause de ton péché, mais que tu crois que Jésus a payé le prix, alors tu peux être déclaré juste. Voilà la promesse de Dieu. Voilà la promesse de Dieu pour nous. Et si nous croyons dans cette promesse, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est le premier fruit de la justification par la foi, la paix avec Dieu. C'est extraordinaire, la paix, hein ? Mais de quelle paix s'agit-il ? Est-ce que c'est la paix subjective, celle où on se dit « Ah, je me sens bien, je suis en paix » ou bien c'est plutôt une paix objective qui serait finalement extérieure et indépendante de nous-mêmes ? Eh bien, on peut dire les deux, mon capitaine. Mais c'est d'abord et avant tout une paix objective. Parce que justement, elle ne vient pas de nous, cette paix, mais elle vient de Jésus-Christ. Ce n'est pas une paix qu'on peut forcément ressentir comme si on a fait quelque chose de bon ou comme si on est sorti d'une période de stress difficile, comme si on s'est déchargé d'un lourd fardeau et vous savez, à ce moment-là, on se dit « Waouh, ça va mieux ». Ce n'est pas vraiment de cette paix-là, en premier lieu, dont il est question ici. C'est une paix bien plus grande. La paix de la réconciliation. Cette paix qui est retrouvée avec notre Créateur, cette paix qui restera toute notre vie, quels que soient les méandres de notre vie. En Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et cette paix est un cadeau. Même si parfois, on ne la ressent pas, elle est là. Voilà à quoi on pourrait comparer cette paix. Imaginez que vous êtes dans une situation financière compliquée et vous vous retrouvez sur votre compte en banque avec le négatif. Vous êtes dans le négatif de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, à tel point que vous arrivez à un moment où vous n'êtes plus capable, plus dans la possibilité de rembourser vos dettes. Et puis un mécène, quelqu'un que vous ne connaissez pas, entend parler de votre situation financière et choisit de vous faire un virement qui va à la fois payer toutes vos dettes, mais aussi tous les agios qui vont avec. Et en plus de ça, parce que c'est quelqu'un de véritablement bon, qui va donner un surplus suffisamment confortable pour que vous puissiez être tranquille pendant quelque temps. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la banque? Le banquier est content et il se dit, c'est bon, vous n'êtes plus dans nos clients qui nous doivent de l'argent. Maintenant, vous faites partie de nos clients qui ont réglé leurs dettes. Légalement, vous êtes déclaré, pas juste, mais je sais pas comment on peut dire, vous êtes déclaré, pardon, solvable, voilà, merci, pardon, et vous êtes en paix avec votre banquier. Imaginez maintenant que vous receviez vos feuilles de compte et puis vous vous rendez compte d'un coup que, bah, effectivement, vous n'êtes plus en dessous de zéro, mais vous êtes bien au-dessus de zéro et que tout a été remboursé. Vous ne savez pas qui a fait ça. Peut-être qu'au début, vous seriez dans la joie et vous dites, waouh, c'est extraordinaire, merci Seigneur. Mais peut-être aussi qu'à un moment, vous allez être pris par le remords et la culpabilité et vous dire, mais qui a fait ça? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que votre sentiment à ce moment-là serait-il justifié? Comptablement, non. Non. Parce que le livre de compte est formel. Vous faites partie des clients qui ont un solde positif. Et ce n'est pas parce que vous avez des remords à ce moment-là que votre compte bancaire va changer. Voyez-vous, notre appropriation de la paix avec Dieu, de la paix de Dieu, peut varier parfois, en fonction de nos sentiments, en fonction de nos périodes de vie, en fonction de plein de choses. Mais cela ne changera jamais rien quant au statut objectif que nous avons reçu d'être déclarés en paix avec Dieu. Cette paix ne changera jamais. Et elle ne dépendra pas de notre obéissance, de notre piété, de notre zèle pour servir Dieu, ou même du nombre de péchés que nous avons déjà commis depuis que nous nous sommes levés ce matin. Elle est une réalité notée sur le livre de Dieu. Et quand je me retrouverai devant Dieu, quand il reviendra, quand il me prendra avec lui, il m'accueillera parce que je suis en paix avec lui. Et bien sûr, cette paix peut parfois apporter un sentiment de paix profond, merveilleux, ce que Charles Hodge appelle la douce quiétude de l'âme. Mais parfois aussi, ce sentiment de péché, ce sentiment, pardon, de paix peut être absent, notamment quand un péché nous colle à la peau et qu'on a du mal à lutter. Peut-être qu'on ne ressent pas cette paix, mais nous sommes bel et bien déclarés en paix avec Dieu. Et donc, c'est ici un premier appel pour chacun d'entre nous, pour celles et ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Parce que si vous avez placé votre foi en Jésus, que vous croyez en sa mort, en sa résurrection, que vous êtes repenti de votre péché devant Dieu, alors ne doutez pas, ne doutez jamais que vous êtes en paix avec Dieu. Restez fermement attachés à cette vérité. Et souvent, le malin vous mentira et essaiera de remettre en question cette paix que vous avez. Il essaiera de montrer que vous êtes encore en guerre contre Dieu, à cause de vos luttes, à cause de vos passions, à cause de plein de choses. Mais la dette a été payée une fois pour toutes. Rien ni personne ne pourra jamais briser cette réconciliation que nous avons avec Dieu. C'est une espérance glorieuse dans laquelle nous sommes fiers de placer notre joie. Et on en arrive à ce deuxième fruit de la justification par la foi, c'est l'espérance glorieuse. J'espère que ça va marcher. Bon, peut-être on peut le faire directement en appuyant sur l'ordi. Et je vais vous lire chapitre 5, verset 2, la fin du verset 2. Hein. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il le dit aussi, Paul, à la fin du verset 9. Hein. Il parle de ce moment où nous serons sauvés par lui. Par Dieu de la colère, sauvé par Jésus-Christ de la colère. Beaucoup de monde se suffisent à vivre une vie sans espérance, n'est-ce pas? Mais la Bible nous parle d'une espérance glorieuse qui est promise à tous ceux qui sont justifiés par la foi. Et nous pouvons nous glorifier de cette espérance. Parce que le salut qui est en Jésus-Christ est à la fois ancré dans le passé, parce qu'il nous a déclaré juste au moment où on a placé notre foi en lui, mais il est aussi présent aujourd'hui dans ma vie chrétienne de tous les jours, parce que je veux, comme le dit au verset 2 Paul, je veux tenir fermement dans cette grâce de Dieu, et cela est possible parce que Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit agissent encore aujourd'hui, ils intercèdent pour nous et ils sont en action pour continuer cette œuvre de salut. Paul en parlera au chapitre 8, un petit peu plus loin. Mais ce salut en Jésus-Christ, il est aussi ancré dans le futur. Parce que Dieu fait à chacun de ses enfants cette promesse immuable qu'un jour il revêtira la gloire de son propre Fils. Un jour nous revêtirons la gloire de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte de cette promesse ? La gloire du propre Fils de Dieu ? Quelle espérance glorieuse ! Et cela change tout de notre vie aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas seulement à vivre le monde présent en essayant d'enchaîner les journées comme on peut, mais on a cette espérance qui nous permet de vivre en gardant les yeux fixés sur ce cadeau extraordinaire. Ce même Martin Luther disait « Je n'ai que deux jours dans mon calendrier, aujourd'hui et ce jour-là. » Vivre aujourd'hui en gardant les yeux fixés sur ce jour de gloire qui nous attend. Quelle sérénité je peux trouver dans cette espérance glorieuse. Quand je suis accablé par mon péché qui me colle à la peau, que je n'arrive pas à combattre, j'ai cette espérance glorieuse. Quand je subis le mal des autres, les moqueries, les méchancetés, les abus ou d'autres choses, j'ai cette espérance glorieuse. Quand je vis les conséquences de mon péché passé, qui m'accable peut-être chaque jour ou régulièrement, j'ai cette espérance glorieuse. Quand je dois persévérer dans un travail difficile, mal payé, ingrat, j'ai cette espérance glorieuse. Quand je souffre de maladies ou de choses qui me pèsent chaque jour, j'ai cette espérance glorieuse. Quand je suis au collège, quand je suis au lycée et que je subis les moqueries des autres pour ma couleur de peau, ma coiffure, mon aspect physique ou les valeurs de mes parents, j'ai cette espérance glorieuse. Quand je suis dans une situation de couple que je n'ai pas choisie ou qui m'est difficile à vivre, j'ai cette espérance glorieuse. Quand je suis découragé dans mon ministère et dans ma vie avec Dieu, j'ai cette espérance glorieuse. Et je vous laisse continuer cette liste en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui. Mais j'aimerais que ce refrain résonne dans notre tête cette semaine. J'ai cette espérance glorieuse. Quoi que nous vivions, quoi que nous puissions subir de difficile ou de joyeux. Le troisième cadeau de cette justification par la foi, c'est la confiance dans les épreuves. Regardez les versets 3 à 5. « Bien plus, nous nous glorifions même dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Paul continue de nous émerveiller de cette justification, et il nous dit, vous voyez, cette justification, elle nous donne la confiance dans l'épreuve. En l'occurrence, là, il parle des tribulations et des épreuves particulières que l'on vit à cause de notre foi. L'espérance de la gloire nous permet de traverser les épreuves de la vie. Pourquoi est-ce que je peux garder confiance en Dieu quand je passe par des moments difficiles ? Eh bien, parce que je sais que je suis en paix, déclaré en paix avec Dieu, et que cette paix ne changera pas. Parce que je sais qu'un jour, je vais prendre part à la gloire de Dieu. Et tout cela me rappelle que l'épreuve que je vis aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de l'acharnement de Dieu contre moi. En fait, elles sont même un sujet de gloire, dit Paul. Parce qu'elles nous permettent de grandir dans cette persévérance. Et cette persévérance nous permet de montrer notre fidélité à Dieu. cette fidélité à Dieu est récompensée par cette espérance glorieuse à venir. Et on voit ici que les épreuves ne sont que des étapes douloureuses, certes, mais des étapes dans notre marche quotidienne vers la gloire à venir. Paul dira plus tard, « J'estime qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est l'histoire d'une jolie petite fleur. J'aurais pu choisir une photo moins pixelisée, désolé. C'est l'histoire d'une jolie petite fleur bleue qui poussait au bord du chemin. Et cette fleur transpirait beaucoup parce que le soleil était très fort. Et elle n'appréciait pas du tout la chaleur torride. Aussi se mit-elle à souhaiter ardemment que le vent se lève pour la rafraîchir. Sois patiente et accepte ce que Dieu t'envoie. Ne pense pas qu'il t'abandonne. Comme il est ton créateur, il t'aime, il te donne ce qui est le meilleur pour toi, lui disaient les autres fleurs autour d'elle. Mais la sueur coulait le long de ses feuilles et soudain, une brise douce et légère se leva pour la caresser. Alors pendant quelques instants, elle se sentit bien, elle était heureuse. Mais son sourire disparut bien vite. « Comme ce courant d'air dessèche mes feuilles, » disait-elle. « Pourquoi n'a-t-il pas amené la pluie avec le courant d'air ?» Alors, la pluie arriva. Les gouttes ruisselaient sur elle et... Quel bonheur! Mais très vite, elle gémit de nouveau. « Ah, j'en peux plus de cette pluie. Pourquoi le soleil ne brille-t-il pas? L'auteur d'un aussi sale temps n'est qu'un tyran. À coup sûr, mes rhumatismes vont reprendre. » Et au bord du chemin, cette petite fleur bleue se lamentait jour et nuit. Que ce soit par temps de pluie, de brouillard, de soleil, de vent, etc., elle n'était jamais heureuse. Elle n'avait jamais la patience d'attendre qu'au soleil succède la pluie le vent, et au vent à nouveau le soleil. Et elle sombra dans une profonde mélancolie. Nous ressemblons parfois à cette petite fleur bleue, n'est-ce pas ? On trouve toujours matière à se plaindre. Probablement encore plus quand on est français, paraît-il. Mais dans le mot patience, il y a aussi cette idée de souffrance. Or, nous vivons dans un monde qui recherche la jouissance et qui veut à tout prix, toujours, éviter la souffrance. Et parfois, nous pouvons nous aussi poursuivre le plaisir et rejeter toute contrainte. Alors que Paul est clair, la détresse produit la patience, la souffrance produit la patience, et la patience, la fidélité éprouvée, l'espérance. Il y a quelque chose de bon dans la souffrance que nous pouvons vivre. Non pas la souffrance elle-même, mais dans ce que Dieu veut nous apprendre pour nous amener à espérer encore plus la gloire à venir. Quatrième cadeau que nous voyons, nous allons aller un petit peu plus vite, c'est la certitude de l'amour de Dieu. Versets 6 et 8. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu. Paul l'affirme, Christ s'est offert à la croix pour nous alors que nous étions encore ses ennemis. Et effectivement, comme le dit Paul, on pourrait facilement s'imaginer quelqu'un qui se sacrifie pour ses amis, pour sa famille. Et on en connaît dans l'histoire des gens qui se sont sacrifiés pour des innocents. Mais personne ne serait prêt à mourir pour quelqu'un qui est injuste, méchant, cupide, perfide, plein d'envie, meurtrier, qui crée la discorde, qui est fraudeur, rapporteur, vicieux, médisant, impie, colérique, orgueilleux, fanfaron, pervers, rebelle, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence et sans pitié. Ça, c'est le portrait que Paul dresse au début de son épître, en décrivant ceux qui sont encore sous la colère de Dieu, qui ne se sont pas encore repentis de leurs péchés. Et nous étions tous comme ça. C'est notre portrait robot à tous avant qu'on découvre Jésus-Christ. Et alors qu'on ressemblait à ça, qu'on était ça, Christ est mort pour nous. Quel amour! Quelle preuve d'amour extraordinaire! On On raconte cette histoire un jour que on est à New York dans une très belle et grande maison. Et puis il y avait un cambrioleur qui était là. C'était un des fils du propriétaire de la maison. Mais ce fils, malheureusement, avait fait beaucoup de mal dans sa vie et puis il avait été un peu rejeté par sa famille. Et il était convaincu que son père allait le rayer du testament. Alors, il n'avait qu'une envie ce soir-là, c'était de retrouver le testament dans le bureau de son père pour le détruire afin que il puisse quand même avoir une part de l'héritage. Et puis quand enfin il trouve le testament dans le bureau de son père, voilà ce qu'il lit. La part de mon héritage revenant à mon fils Édouard ne doit pas être diminuée. Ses frères et sœurs doivent l'accueillir et lui dire que mon amour pour lui restera pareil jusqu'à mon dernier souffle. Quelle surprise! Confus, honteux de son acte, il éclate en sanglots et le lendemain, il appelle son père pour s'entretenir avec lui et la réconciliation fut totale grâce à l'amour inconditionnel de son père qui lui avait brisé le cœur. Voilà une illustration de l'amour de Dieu envers nous, envers chacun d'entre nous. Quel incroyable testament Dieu a-t-il rédigé pour nous alors que nous sommes des pécheurs impénitents pour nous proposer le pardon et la vie éternelle en sa présence, uniquement à cause de Jésus-Christ et de son sacrifice. Et si ce récit nous interpelle, peut-être est-ce qu'on doit aller, peut-être devons-nous aller vers ce Père céleste pour lui confesser notre situation et lui demander son pardon qui nous est assuré. Le prophète Jérémie écrit: Je t'aime d'un amour éternel, c'est Dieu qui parle à son peuple. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voilà quel est l'amour de Dieu envers chacun de nous. Le cinquième cadeau, fruit de la justification par la foi, c'est la délivrance. Versets 9 à 10, je lis: À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Encore une fois, Paul regarde en arrière pour nous enseigner sur ce qui doit arriver dans le futur. Si Dieu nous a déclarés justes par la foi, nous a rendus justes grâce à la mort de Jésus, parce que son sang a coulé à la croix, alors nous serons sauvés de la colère à venir. Sur la croix, Jésus a versé son sang pour que le prix de mon péché soit payé. Et si Dieu nous a attirés à lui par la mort de son Fils alors que nous étions ses ennemis, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants, nous sommes réconciliés avec lui et il nous gardera sauvés par la vie de son Fils. Voilà ce que dit un commentateur. Si le Sauveur à l'agonie nous a réconciliés avec Dieu, le Sauveur vivant a assurément le pouvoir et le désir de nous garder réconciliés. Ça va de pair avec la paix que nous avons vue tout à l'heure. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est délivré du péché. Et on va voir maintenant le dernier fruit de la justification par la foi, c'est la joie. Regardez avec moi le verset 11. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est le dernier fruit qu'on voit ici. Alors le mot joie n'apparaît pas directement dans le texte, c'est vrai. Mais Paul parle de cette gloire que nous trouvons en Dieu, cette saine fierté qui nourrit cette joie qui est empreinte de reconnaissance pour le salut que Jésus nous a offert. Nous ne sommes plus des ennemis, nous sommes des enfants de Dieu. Quelle grâce, quelle beauté, quelle profonde joie cela crée en nous et procure aux croyants. Le psaume 33, verset 21 dit: Car notre cœur se réjouit en lui, nous avons confiance en son saint nom. Cette joie est un des fruits les plus encourageants de notre vie chrétienne, parce qu'elle est, elle, pour le coup, subjective. C'est cette joie qui, contrairement à la paix tout à l'heure, est quelque chose que l'on ressent beaucoup plus souvent. Elle est tellement bonne et réconfortante. Parfois, malheureusement, on vit une vie chrétienne qui ressemble plus à une vie de deuil qu'à une vie de joie. Bien sûr, il y a la place pour la souffrance, pour le deuil. Allez, j'ai encore une petite histoire à vous raconter. Je pensais que j'allais pas le faire, mais c'est encore l'histoire, une histoire de Martin Luther. Et on raconte un jour que, alors qu'il passait par des moments de combat redoutables, il se sentait abattu, défait, dans l'adversité. Et son épouse, donc on est plus tard de ce qu'on a raconté tout à l'heure, son épouse se présente devant lui avec des vêtements de deuil un soir. Alors il lui demande « Mais qui est mort ?» Et elle lui répondit « Dieu ». « Comment ? Dieu ? Mais comment est-ce que tu peux dire une chose pareille ?» Et elle lui répondit « Je dis seulement en fait ce que tu es en train de vivre. » Et voyez-vous, Luther prit effectivement conscience à ce moment-là qu'il était en train de gérer son existence comme si Dieu n'était plus le vivant, comme si Dieu n'était plus celui qui voulait prendre soin de son serviteur. Et cette prise de conscience transforma son regard sur sa sombre situation. Il retrouva les forces nécessaires pour continuer la lutte, mais dans une toute autre perspective. Et oui, parfois, notre vie de croyant peut être caractérisée par des vallées profondes, ténébreuses, au sein desquelles notre aveuglement est devenu tellement profond qu'on ne prend même plus conscience que Dieu est celui qui nous aime, qui nous apporte la paix, qui nous donne une espérance glorieuse, à qui on peut faire confiance, pardon, dans les épreuves, et en qui on peut trouver une joie pleine et entière. Peut-être certains se rappellent de ce chant ancien, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le chanter à un moment dans l'église ici, un chant de Charles Wesley qui dit « Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix. Doux nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, tu répands la joie et la vie et la paix dans nos cœurs. » Alors pour conclure, ce texte nous présente de manière extraordinaire les merveilles attachées à notre salut. Le salut pour ceux qui se repentent de leurs péchés, qui croient en Jésus, c'est une grâce qui se saisit par la foi. Et la foi en Jésus nous déclare juste et nous apporte de merveilleuses bénédictions. Et ce texte a pour objectif ce matin de nous fortifier, de nous encourager, de nous émerveiller. Un petit peu comme une œuvre d'art ou comme un paysage extraordinaire devant lequel on ne se lasserait jamais. Dieu est infiniment merveilleux. Et quand on devient chrétien, on n'a jamais terminé de nous émerveiller de ce Dieu et de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il nous apporte et de tout ce qu'il nous offre. Il nous offre la paix, l'espérance, la confiance, l'amour, la délivrance et la joie. Alors ne nous lassons pas de tous ces cadeaux que Dieu nous offre. Amen.